Mais nous avons une bonne réunion de jeunesse vendredi soir. C'est tous les deux semaines, boulevard de Metz, suivi d'un petit goûter où on partage un moment. Et ce trimestre, c'est un jeûne, la foi des jeunes de la Bible. Ce sont des exemples. David, Samuel, Daniel, Lot. Bon, il y a des bons exemples, il y a des mauvais exemples, mais tous sont utiles pour nous instruire. Frères et sœurs, comme le temps passe, nous sommes invités à rejoindre pour la dernière fois Jonas. On dit un petit prophète, c'est étrange. Voyez-vous nos traditions. Livre du prophète Jonas. Nous avons déjà parlé pendant tout le mois d'août de ce prophète qui a été envoyé par le Seigneur dans une ville sanguinaire, insolente, trompeuse, la ville de Ninive. Et Jonas a eu peur. Peut-être pas peur des gens, mais peur de faire un travail qui ne sert à rien. Et il est parti en Espagne, passer ses vacances. Il a peut-être eu des vacanciers en Espagne. C'est bien, c'est chaud, c'est beau. Mais lui, il fuyait. Et vous savez comment Dieu a arrêté sa fuite par une tempête et comment il a été jeté dans la mer et avalé par un grand poisson et retourné à la case départ. Peut-être qu'on a besoin de revenir aux cases départ. Et Dieu l'a envoyé à nouveau, Dieu ne se lasse pas, à nouveau à Ninive. Et là, il est parti. Et à Ninive, il a prêché la destruction de Ninive. Eh bien, Ninive n'a pas été détruite. Parce que quand on prêche la destruction, ça peut provoquer une repentance. Et tous les habitants de Ninive se sont ressaisis. Donc, certains diront, il a travaillé pour rien. C'est ce qu'il disait. Ça sert à quoi, puisque tu es bon? De toute façon, tu es bon, Seigneur. Ça sert à quoi que je leur dise que tu vas détruire Ninive? Alors, il n'est pas content. Il n'est pas content que Dieu soit bon avec Ninive. Pas facile à comprendre. Hein. Notre vie, parfois. Eh bien, lisons le chapitre 4. Le Seigneur se repentit, le Seigneur a changé d'avis. Cela déplut fort à Jonas, chapitre 4, verset 1er. Et il fut irrité, il implora l'Éternel et lui dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. » Il connaît son catéchisme. Et il a raison. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, afin qu'elle soit profitable pour moi, pour mes frères, mes sœurs, pour la suite de leur temps, de leur vie, au service du Maître. Amen. Nous voici devant Jonas encore, qui nous repose des questions sur notre mission, notre obéissance, notre caractère. Jonas, je l'appelais Jojo le boudeur. Ce n'est pas facile. Ça pose des questions aussi sur notre confiance en Dieu. Il a prêché, Ninive est en pleurs. Ils se repentent du plus petit au plus grand jusqu'au roi. Pleurs et joie. Ninive a changé. Et Jonas ne change pas son message. Il continue de dire Ninive va être détruite, Ninive va être détruite. Il m'est arrivé souvent la nuit du samedi au dimanche de faire deux prédications parce que le Seigneur me donnait à cœur d'arrêter celle-ci et de commencer une autre, et même parfois une troisième au milieu de la nuit, parce qu'il faut savoir changer, être souple pour être près du Seigneur et près des autres. Jonas, il ne change pas. Tout le monde se convertit, il annonce la fin du monde. Et il ne change pas son caractère. La mort m'est préférable, heureusement que Dieu ne nous prend pas toujours au sérieux. Je vois dans cette histoire, qui est un reflet de notre vie, je vois que l'homme sauvé, serviteur de Dieu même, peut rester égoïste, dur, incapable de perdre son temps. On me l'a dit parfois, je ne veux pas perdre de temps avec Dieu. Jésus a donné sa vie. Et parfois, dans le service de Dieu, on a l'impression qu'on perd du temps. Jonas a perdu un peu de temps, oui. Le seul cœur dur de Ninive à cette époque, Ninive est en pleurs, se convertissant par milliers, par milliers. Le seul cœur dur, c'est Jonas. La seule tête dure, c'est lui. Frères et sœurs, que dans la ville de Rennes, s'il y a des cœurs durs, que ce ne soient pas les nôtres, s'il y a des cœurs fermés, des cœurs obstinés, des cœurs aveuglés, que ce ne soient pas les nôtres, nous avons la lumière de l'Évangile. Amen. Jonas est resté à part. Tout le monde était content, c'était la fête. Il est resté à l'écart, il ne s'est pas fait connaître. On n'a pas vu son visage. C'est une voix sans visage, c'est une voix sans humanité. Jésus, lui, il était au milieu des pécheurs, des prostituées, des publicains, des enfants, des malades. Dimanche, il y aura les journées du patrimoine. On ouvre les portes et samedi, il faut être au milieu pour parler de l'Église et parler de nous. Il faut être avec. J'essaie d'être le plus possible au milieu des autres. Jésus n'était pas comme cela. C'est pourquoi Jésus dit en parlant de Jonas, ici il y a plus que Jonas. Oui, Jésus est plus que Jonas. Il avait ses petits défauts, comme nous. Alors il s'est construit une cabane parce qu'il y avait 50 degrés à l'ombre. Il s'est construit une cabane alors que le palais du gouverneur l'attendait pour un témoignage. Il ne faut pas avoir peur d'aller haut, de rendre témoignage aux autorités quand elles nous y invitent. par la fermeture de cœur de Jonas, que Dieu nous en garde, par la fermeture de cœur de Jonas, aucun témoignage fort sera donné à Ninive. Si nous ne transmettons pas le témoignage de la parole, que transmettons-nous ? Des cris ? Des chants, des danses ? Nous transmettrons une parole ou rien d'autre. C'est un oncle et une tante qui ont reçu depuis l'époque de M. Scott. Transmission, transmission. Un oncle et une tante m'ont donné la parole et ils me l'ont expliqué. Et c'est cette parole qui m'empêchait de dormir une nuit. Et le Seigneur a touché mon cœur pour toujours. J'avais 14 ans. Et Ninive n'entendra pas tout ce qu'elle aurait dû entendre et elle sera détruite quelques années plus tard. Jonas, c'est un reflet pour nous, c'est un miroir. Oui, il sert le Seigneur, mais quel penchant à la colère, quel repli sur lui-même. On a besoin de changer, hein. Quel mépris des autres, quel esprit de supériorité, quel mécontentement. Ce sont des penchants qui nous empoisonnent la vie, qui empoisonnent nos familles, notre couple, notre vie d'église. Servir Dieu, c'est avoir un cœur changé. Amen. Oui. Alors il fait une cabane. Il fait. Mais tout ce que nous faisons est insuffisant, monsieur Jonas. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas à la hauteur. Nous sommes imparfaits en tout. Il faut que ce soit Dieu qui prenne la suite. Et Dieu a fait pousser un ricin, un arbre étonnant, ce n'est pas vraiment ricin, avec beaucoup de feuilles. C'est Dieu qui a donné la solution, un ricin pour te protéger. Et avant que Jonas prie, le ricin poussait. Ça ne veut pas dire que Dieu a prouvé Jonas. Parfois, nous avons des petites bénédictions et nous disons « Je suis dans le bon chemin ». Parfois, on a du soleil puis on dit « Seigneur, me bénis ». Jonas a dit « Oh, il y a un ricin, je suis vraiment dans le plan de Dieu. J'ai raison de bouder, de me mettre en colère. Dieu est avec moi, contre Ninive. » Pour réfléchir. Dieu a fait miséricorde à Jonas, c'est tout. Malgré qu'il avait des écarts, Dieu nous fait miséricorde. Nous, parfois, nous sommes sans pitié. Nous pouvons tuer quelqu'un qui fait un tout petit faux pas. Il a travaillé peut-être 50 ans pour le Seigneur, mais il a fait un petit faux pas, il faut le détruire. Nous sommes sans pitié. Le Seigneur, lui, pour lui, Jonas, c'est son serviteur, son bien-aimé, c'est son fils. Il l'aime. Et il va mettre un parasol de verdure sur sa tête. Moi, je connais des gens qui auraient peut-être dit, il faut priver Jonas de pain. Il faut priver Jonas d'ombre. Il faut le punir. Il a ce qu'il mérite. Nous sommes trop durs. Dieu nous enverra des âmes, mais il faut que nous soyons capables de les accepter telles qu'elles sont et de les conduire doucement avec douceur et amour. Nous faisons des cabanes, nous faisons nous-mêmes des choses, mais la véritable bénédiction, c'est Dieu qui la donne, c'est le ricin. Alors il est fou de joie, Jonas. Je vous assure que quand je lis Jonas, je suis mal à l'aise. J'ai un petit malaise. Il est fou de joie parce qu'il y a un arbre qui a poussé sur sa tête. Et il est là en train d'attendre que Ninive brûle. C'est épouvantable. Un petit rien lui donne une grande joie. Un petit rien le provoque une grande colère. Oh, Jonas, on a du mal à te suivre, Jojo. Je ne sais pas si on peut avoir des joies bruyantes aujourd'hui. Je suis dans la joie avec le Seigneur. C'est vrai, moi, le prêtre, la joie de mon salut, la joie de sa présence. Mais c'est fini, c'est la fin du monde. Nous sommes dans un temps de déclin rapide, moralement, spirituellement, la faune, la fleur, tout décline. Les mentalités. Alors on ne peut pas être là, tout béat, le monde est beau. Que faisaient les chrétiens la veille de la chute de l'Empire romain ? L'Empire romain, c'était un empire, et l'Église était dans cet empire, c'était un des plus grands empires de la terre. Et puis un jour, les barbares sont arrivés, ils ont tout cassé, tout. Il ne restait plus rien debout. Mais je me suis posé la question, mais j'ai le livre à la maison, il faut que je le lise. Que faisaient les chrétiens la veille de la destruction de l'Empire romain? Ça commençait à sentir mauvais, il y avait des choses qui arrivaient. Est-ce qu'ils ont dit, ah, que le monde est beau, que le monde est gentil, etc. C'est beau, c'est beau. Il y a des moments, frères et sœurs, il faut pleurer sur l'autel de Dieu. Il faut gémir, il faut jeûner, il faut se frapper la poitrine. Seigneur, sauve nos enfants, sauve cette ville, sauve ce monde. Vous savez, dans cette histoire de Jonas, Dieu nous apprend à apprécier les petites choses passagères. Le ricin, c'est passager, ça va durer une journée. Il nous apprend à les apprécier sans oublier la maison du Père. On n'a pas de mémoire. On est tellement accaparé par les choses de la terre qu'on oublie les choses d'en haut. Jésus disait, réjouissez-vous d'abord de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans les cieux. Amen. C'est ça. Le Seigneur nous va apprendre, en s'amusant, on a l'impression que Dieu va s'amuser, il va apprendre à Jonas ce que veut dire s'appuyer sur le Seigneur. D'ailleurs, quand le ricin a poussé, il n'a même pas dit « merci Seigneur », il a seulement été heureux. Il y en a qui mentent sans jamais dire merci. Il y en a qui viennent au culte sans dire merci. Il y en a qui respirent sans dire merci. Il faut dire merci à Dieu. Et devant le ricin, il a dit « oh, je suis content ». Il n'a pas dit merci. Jonas, tu nous surprends. Et Dieu va lui apprendre une petite histoire. Il va faire venir un petit ver. Et le petit ver va piquer le ricin. Et le ricin va crever. Petit arbuste. Parce que les choses de la terre fleurissent et fanent. Notre santé fleurit et fane. Notre vie fleurit et fane. Et dans toutes les choses de la terre, il y a un petit ver. Il y a un petit ver qui va nous ronger. Seul Jésus demeure. Seul Jésus reste avec nous. Le Seigneur a l'air de dire à Jonas, le ricin c'est une bénédiction, mais ce n'est pas suffisant, ça ne peut pas te combler la vie. Ton travail ne peut pas te combler. Ton argent, ta voiture, tes vacances, ta musique, tes chansons, ça ne peut pas te combler. On s'attache, frères et sœurs, aux dons de Dieu, aux cadeaux de Dieu. Mais ces cadeaux, c'est pour que nous nous attachions à Dieu lui-même. Dieu nous donne pour qu'on s'attache à Dieu lui-même. Je vais bientôt finir. Notre cœur est idolâtre. On pense davantage à ses fauteuils bien brossés, à sa voiture bien lustrée, qu'au salut des âmes. Ne sommes-nous pas idolâtres ? Petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie, disait l'apôtre Jean dans sa dernière épître, dans ses derniers mots. On s'attache aux choses passagères. Il y en a même certains qui prient même plus pour le salut des perdus. Il y a certains qui ne font plus rien, qui n'y pensent pas. C'est terrible, là. L'invasion des fourmis qui nous dévore l'esprit.
Il faut user des choses du monde sans jamais, jamais oublier le grand amour de Jésus en croix pour le salut du monde. Amen. Alors comment Dieu va faire pour établir dans la pensée tout, l'ordre? Notre Jojo, il ne va pas bien là. Il pleure pour un petit ricin, un petit arbuste, il se réjouit, il ne pense pas aux gens, il a perdu la tête. Le Seigneur ne va pas lui... Il ne va pas le renier, il ne va pas le mettre à la porte. Le Seigneur va lui envoyer un tout petit ver. Par des petites choses faibles, le Seigneur va confondre nos grandes choses qui ne tiennent pas la route, qui ne vont pas aller loin, par un tout petit ver. Et parfois, nos petits vers, ce sont des mécontentements, on n'est pas satisfait. Ce sont des fatigues, des lassitudes, des déceptions. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Mais à quoi ça sert? Voilà, le Seigneur nous parle dans cette histoire de Jonas des choses éphémères que nous saisissons, mais qu'il nous faut lâcher. Il ne faut pas s'y cramponner. C'est comme quelqu'un qui ramasse des coquillages dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il faut qu'il aille vite, il ne faut pas qu'il reste. Il y en a plein là-bas, mais dépêche pas de rentrer, la marée revient. Et quand la marée revient... Tu ne peux plus rester dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ceux qui ne connaissent pas iront. Alors Jonas n'est pas content, il est en colère. Mais fais-tu bien de t'irriter? Regardez comme le Seigneur parle gentiment. Fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que tu as raison d'être de mauvaise humeur? Toi, prophète Jonas, qui as une âme immortelle, tu te mets en colère pour un petit peu d'herbe que tu as perdu. Pour 3 carottes et 2 cerises, alors que tu n'as pas perdu le Seigneur. Alléluia. Tu te mets en colère pour 2 fois rien. Vous savez, parfois on fait des prières insensées. On fait des prières qui ne sont pas dans la maturité de l'homme de Dieu. Et je remercie le Seigneur de ne pas répondre à ces prières. Merci Seigneur. Amen. C'est une bénédiction que Dieu n'exauce pas toutes nos prières. Parce que parfois on fait des prières qui vont nous éloigner de Dieu. Jonas répond, je fais bien de mériter. Non. Il est dominé par des mauvais penchants. Mais Dieu lui parle avec bonté. Dieu n'est pas en colère. Dieu ne le frappe pas, ne le châtie pas. Il lui dit, mais tu as eu pitié du ricin, mon petit Jonas, et tu ne veux pas que j'aie pitié de Ninive? Tu as eu pitié d'une petite herbe et tu ne veux pas que j'aie pitié des autres? Il faut apprendre la miséricorde auprès de Dieu. Si nous n'apprenons pas la miséricorde, nous ne sommes pas la lumière du monde. Jonas, viens là. Jonas, tu aurais voulu que Dieu épargne ton petit arbre et qu'il n'épargne pas la ville de Ninive. C'est ça ou c'est pas ça? Jonas a dit oui, oui. J'aurais voulu que Dieu sauve mon petit arbre, mais qu'il tue la ville de Ninive. Jonas, c'est toi qui as dit ça? Oui, c'est moi. Je fais bien de mériter. Il est costaud. C'est pas tellement l'arbre qu'il regrette, Jonas, c'est surtout le bien-être. Parce qu'il fait chaud hein, là-bas, en Irak. Cette petite fraîcheur, cette petite ombre, je la regrette. Jonas, tu ne regrettes pas que le bien-être que Dieu pourrait donner à 2 millions de personnes à Ninive? Tu regrettes ton petit bien-être, mais tu n'as rien à faire du bien-être éternel de 2 millions de personnes. J'ai envie de lui mettre une gifle à Jonas, et vous? Il m'énerve, moi, à la fin. Il ne comprend rien. Jonas, dans Ninive, il y a 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Écoutez, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ces 120 000 personnes, ce ne sont pas des soldats. La droite, c'est bien là, la droite, oui. La gauche. Ce ne sont pas les artistes de Ninive, c'était des gens absolument extraordinaires dans l'art. Les bas-reliefs, il y en avait. J'ai l'impression que ces 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, ce sont les petits-enfants. Parce que les petits-enfants, on leur dit « Où est ta droite ?» À eux, ils ne savent pas. Alors Jonas, Dieu lui dit, faut-il que ces 120 000 petits qui ne savent pas droite, gauche, ils ne savent rien, faut-il qu'ils périssent, eux qui n'ont pas touché au péché, faut-il qu'ils périssent, et la compassion d'eux. Dieu a compassion de nos enfants. Si Dieu nous confie des enfants, c'est pour qu'on leur apprenne à distinguer, à droite de la gauche, oui, à distinguer le bien que Dieu aime et le mal qui déplaît à Dieu, et à connaître Jésus-Christ. Ce que je vois dans cette histoire, par amour pour les petits qui ne savent pas distinguer droite et gauche, qui ont perdu, par amour pour les petits, Dieu veut épargner Ninive. Martin Luther, on en reparlera l'année prochaine, premier réformateur. C'était pas facile, l'Église n'a jamais été facile. Et à une époque, c'était compliqué, l'Église, en Allemagne. Et Martin Luther, il a appris que des enfants priaient dans les églises. Et il a dit, les petits-enfants prient, la réforme évangélique n'a rien à craindre. Je répète, les enfants prient, alors l'annonce de l'évangile n'a rien à craindre. Amen. À Saint-Dié, quand nous étions en stage pastoral, on a été surpris un dimanche en arrivant, les enfants priaient à voix haute. Ça nous a semblé rare et puis magnifique et des prières bien sensées, courtes, brèves. Toc. Si les enfants prient, l'évangile avancera. Et aussi des animaux. À Ninive, Dieu dit pas, les bêtes, c'est pas grave. Dieu a créé les animaux par amour. Il a vu les petits-enfants jeûner, il a vu les animaux jeûner, et Dieu a fait une alliance avec les animaux depuis longtemps. Alors il épargne, il veut épargner, il épargne Ninive, que Dieu soit glorifié. Amen. Alors Jonas, as-tu compris ? Silence. Le livre se finit par une question. Alors tu veux pas que je sois bon avec Ninive ? « Oh, Jonas, tu m'entends ?» Il ne répond pas. Moi, j'aurais aimé, mais enfin, c'est fini. Hein. J'aurais aimé que Jonas dise « Seigneur, je savais, bien sûr, que tu es miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Amen. » Il ne l'a pas dit. Il y a des choses, quand on ne les fait pas sur la terre, on ne les fera pas là-haut. Quand on rate quelque chose sur terre, eh bien, c'est comme ça, c'est fini. Alors, je vais terminer en vous disant, accueillons ce que le Seigneur veut nous envoyer pour les sauver, relativisons nos petites piqûres, nos petites souffrances, mais attristons-nous surtout sur la perdition des âmes et sur la souffrance du monde. Et accomplissons, ayons à cœur le mystère du salut. Nous l'avons difficilement à cœur. Je suis sauvé, merci Seigneur, point final. Et sachons qu'il y a dans la ville et dans partout des belles âmes qui attendent. Les gens de Ninive ont été capables de se repentir plus que les enfants d'Israël. Il y a des belles âmes comme Corneille, comme le roi de Ninive. Alors il faut savoir que, moi j'en ai rencontré des dizaines, Et je pense que ces gens-là, je ne peux pas les mettre d'un coup de pied ailleurs. Je les écoute et je leur parle de Jésus. Je vous envoie. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Merci pour Jonas, Seigneur. Donne-nous de l'imiter dans ce qu'il avait de beau et de nous garder du mal. Amen. Merci pour ta parole. Qu'elle nous soit utile, qu'elle nous parle cette semaine dans tout ce que nous allons faire, dans nos pensées, dans nos actes. Nous voulons mettre la priorité pour écouter Dieu et parler aussi de Dieu et prier pour le salut du monde. Seigneur, refaçonne-nous pour ce grand commandement. Réveille-nous pour ce grand commandement. Si tu nous envoies des petits vers qui vont nous ébranler, Seigneur, que ta volonté soit faite, parce qu'il nous faut entendre aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. On a des choses à apprendre, frères et sœurs.